France Musique. France Musique, les grands entretiens, Anne Montaron.
Je m'appelle Élise, Josette, Louise, Angèle, Caron. Je suis chanteuse à mes heures. J'écris, je compose de temps en temps. J'interprète le plus souvent. Je joue la comédie. Et puis, quoi d'autre ? Je vis.
Velkommen til Danmark. I ønsker til landet og lykkeligt. Det godt. Men jeg kan man præsentere mig.
Élise Caron, hier on a évoqué ensemble votre passage éclair dans la classe de chant du CNSM de Paris, et puis quelques rencontres décisives qui vous ont permis finalement de trouver votre chemin, celle de Bruno Gillet par exemple, puis celle de Luc Ferrari, deux compositeurs à l'esprit très libre. Dans ces mêmes années 1980, il y a eu d'autres rencontres importantes, je crois.
Il y a eu cette rencontre avec Luc, et puis une autre qui a été très déterminante aussi pour moi au même moment, c'est avec... Michel Musso, qui lui avait une autre personnalité de clown décalé, avec une musique décalée, complètement décalée, et aussi beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit. Et là aussi, avec lui, ça a été le début d'une collaboration très fructifieuse. On a fait plein de choses ensemble, lui, c'était le... Il a beaucoup écrit en fausse langue, en faux anglais, en faux russe, en faux français. Mais tout était écrit. Hein. C'était, je ne faisais rien par moi-même, tout était écrit. Et là aussi, ça, c'était pétillant, en fait. C'était pétillant de poésie, une poésie sonore, et d'esprit... décalé, quoi, enfin, clownesque, ouvert, complètement ouvert. Je suis allée vers tout ce qui me semblait être le plus éloigné de ce qui se faisait.
Ce goût pour les langues imaginaires, peut-être qu'il vous vient de là, alors de Michel Musso, parce que je sais que quand vous improvisez, Élise Caron, vous avez souvent recours aux langues imaginaires.
C'est bien pratique pour dire des choses dont on n'a pas idée. Ça. Soutenir le discours, c'est tout ce que j'ai voulu faire toute ma vie, que ce soit en français ou dans d'autres langues. C'est-à-dire que c'est toujours mettre en avant ce dont on parle. Et d'improviser en langue imaginaire permet de jouer. De jouer l'humeur, de jouer... Je suis très sensible, en fait, à ces musiques de langue-là.
Tant que je... Oh, ah, tant que ça te peut... La vie nous met elle en vain. Nut, nut. À te voir aussi, oup, je te peux remettre. Easy full go, go on, mini he'll watch one day. Go, go on away, not I, too many, many to stay. To get together,
Alors j'en ai inventé une vraiment, c'est le vénusien. Il y a une langue en vénusien que de temps en temps je place.
Pourquoi vénusien,
ça vient parce que c'est parce que ça ne ressemble à rien. Vraiment, un truc, ça ne ressemble ni à du russe ni à autre chose. Un peu de vénusien.
Un peu de vénusien.
Non, je pourrais pas. Attends. C'est n'importe quoi, désolée. Je sais pas si c'est du vénusien en fait. J'y suis allée rarement en fait, là-bas.
Dans le pays du vénusien.
Non, mais c'était...
Là encore, c'est l'esprit du jeu, hein. Jouer avec les sons, avec les langues, avec les dynamiques, les attaques.
Si ces langues-là sont du jeu, alors c'est du jeu, ouais. Mm. Bah, de toute façon, c'est du jeu. C'est du jeu musical, c'est musical. La musique de la langue, déjà, c'est déjà quelque chose. Mm. C'est pour ça que, en fait, jouer la comédie, c'est aussi jouer juste ou jouer pas juste. Enfin, ça a trait avec la musicalité de la langue, donc à la justesse du ton, pour être justement cru, que ce soit convaincant. C'est l'esprit qui fait que c'est juste. On peut parler d'une voix totalement monotone et dans la justesse du texte qu'on est en train de jouer, justement. Ça dépend de la langue, en fait. Ça dépend du style de la langue, de l'époque.
Justement, Élise Caron, comment s'est faite votre rencontre avec le jazz? Vous en écoutiez à la maison quand vous étiez enfant ou pas
vraiment,
tant que ça?
Pas tellement.
Pas tant que ça.
On a écouté l'ascenseur pour l'échafaud et l'autre qui est très très connu, c'est Kind of Blue, par exemple. Ouais. Ça, c'était splendide, mais je ne connaissais que ça. On n'écoutait pas du tout ça chez nous. Mais j'improvisais beaucoup sous la douche. Comme ça, quand j'étais seule avec ma petite Gala dans cette maison, et quand le papa allait jouer à Paris, où je restais souvent, très souvent seule avec elle, mais j'ai investigué un nombre incroyable d'univers. J'étais toute seule à faire ce que je voulais de ma voix, et c'est marrant parce que là encore, j'avais pas de vision. Pour moi, c'est s'amuser. Je pensais toujours que montrer son travail, c'était suffisant. Mmh. Sur scène, en tout cas, ou en enregistrement, c'était suffisant pour être voulu, pour être désiré. Et je m'apprêtais, je répétais chez moi des possibilités de ce que je pouvais faire avec ma voix, y compris en langue et tout ça.
Mais sans vraiment démarcher, c'est ça?
Ah non, jamais. Ouais. Jamais. Je n'imaginais pas une seconde aller dire « ce que je fais est génial, vous allez voir, prenez-moi ». Et en 88, je suis allée sur l'île de la Réunion en vacances pendant 3 semaines. Et à l'époque, le directeur de ce conservatoire sur l'île de la Réunion, c'était François Janot, qui a fait venir son trio là-bas pour faire une série de concerts. Et Andy Emler faisait un stage de jazz sur l'île. Que je fis. Et on s'est retrouvés une fois dans une salle, tous les deux. Et il s'est mis au piano. Et j'ai chanté, on a chanté, je sais pas, pendant une heure et demie. Et je faisais tout ce que je voulais. Et Andy, ce que je ne savais pas, c'est qu'il est très très fort pour accompagner et d'aller chercher les gens là où ils sont, même si c'est à côté de la plaque. Donc ça a l'air toujours parfait. Et j'ai pris vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à faire ça. Et quand je suis rentrée à Paris, voilà, c'était une époque vraiment, là pour le coup, assez difficile, où j'avais plus un rond, où je travaillais plus, je travaillais très 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 peu et je faisais plus la comédienne. Et en 91, je reçois un coup de fil de Denis Badeau. Et donc Denis m'appelle, me dit, voilà, j'ai eu Andy Emler, je cherche une personne, une chanteuse. J'ai appelé Andy et il m'a dit, appelle Élise Caron, peut-être ça va l'intéresser.
Donc pour l'Orchestre National de Jazz, pour l'ONG.
Ouais, 91-94. Je suis allée chez Denis, on a improvisé pendant une heure, lui au piano, c'est exactement la même configuration qu'avec Andy à La Réunion. Et voilà, je suis partie pour 3 ans avec lui.
Le fait que vous ne veniez pas du jazz ne lui a pas posé de problème.
Mais non, ouais. Parce que j'ai de l'oreille. Tous les autres improvisaient pendant qu'on répétait. Et moi, j'ai jamais improvisé devant les autres, jamais. J'ai toujours improvisé quand c'était en concert, parce que j'étais trop pudique pour me dire que j'avais quelque chose à travailler, ou pas à travailler, mais à... Moi, c'était toujours des improvisations libres, jamais sur des grilles, ce qui était bien pratique aussi. Et surtout, j'étais utilisée comme un instrument, et j'étais quand même une espèce d'enrobage de chocolat autour des saxophones, des violoncelles, la trompette. Ça donnait un son qui était ni la voix ni la trompette, mais une voix trompette ou une voix saxo. C'était très plaisant de faire l'instrumentiste.
Une histoire qui n'a pas de sens, mais en fait, il a. Plus j'y pense et je sentis la peur du père solaire. Un beau jour de printemps, si tu veux, viens, tant pis sinon. Plus j'y pense et je me dis, je vois pas.
En 96, sort un disque de vos chansons, le Rapatirol.
Oui.
C'est la première fois que vous écrivez vos chansons,
oui.
Musique et texte. Comment est-ce que...
Comment c'est arrivé?
Comment est-ce que c'est fait ce pas-là? Allez, maintenant, j'écris alors, mes propres chansons.
En 1993, j'étais dans un festival à Couches avec Denis Badeau et l'ONG. Et je discutais avec un musicien qui s'appelle François Corneloup,
qui est
saxophoniste, grand saxophoniste et ami. Et nous discutions. Et il me disait, qu'est-ce que tu fais après l'ONG? Bon, je dis, bah, j'ai des trucs, mais j'aimerais bien demander à tous les compositeurs avec qui j'ai déjà travaillé, que ce soit Luc, Ferrari, Bruno Gillet, Denis Badeau, Michel Musso, Albert Marker, avec qui j'avais bossé aussi, de m'écrire une chanson chacun et d'en faire un disque, c'est-à-dire de faire des commandes. Et il me dit cette chose, bête comme chou, il me dit, bah, pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Et là, j'ai une espèce de petite
lumière.
Eureka. Et ça a fait son chemin. C'était en 93. Et à l'époque, j'avais quelques amis avec qui j'entretenais des correspondances épistolaires basées sur la poésie, le jeu de mots, des grands amis comme Gilles Privat, par exemple, qui est un comédien que j'adore et avec qui je m'entends aussi, un homme d'esprit. Donc j'entretenais des conversations avec des personnes. Et un jour, je sortais d'une répétition qui s'était très très mal passée. Quelque chose m'est venu en tête et j'ai écrit un truc d'un seul jet, comme ça, un texte de quelques lignes. C'était mon premier texte, et mon premier texte poétique. Il parlait de l'ombre, et de l'ombre qui fait partie du rapatirole, qui parle des véritables ombres, celles qui sont visibles sur la terre et pas les ombres qu'on porte, les ombres noires qu'on porte en nous et qui se déversent sur la terre. Et donc c'était mon premier texte, et à partir de là je me suis dit, je vais écrire à des gens, c'est-à-dire au monde, comme si c'était des personnes qui me tiennent à cœur, comme ces conversations épistolaires que j'avais avec Gilles Privat notamment, et je vais essayer de parler à tout le monde. Parce que j'ai écrit ce texte, et puis après je me disais, ah ça y est, je vais écrire des chansons, puis j'ai commencé à écrire des chansons, avec un couplet, des machins comme ça, et je relisais, et je me disais, mais ça ne raconte rien. Ça ne raconte rien, on s'en fout, ça, des trucs de rimes, des machins je ne vais pas faire des chansons pour faire des chansons, j'ai envie de faire des chansons parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire ce que je sens du monde. Et je l'avais suffisamment traversé, j'avais déjà 33, 34 ans pour avoir des choses à dire. Et en fait, j'ai commencé à parler de ce qui m'était le plus cher, et le plus intime, mais à le dire au monde, comme si c'était une lettre adressée au monde.
France Musique, les grands entretiens d'Élise Caron.
Sous mon eau qui dort, ici ou là, ici ou là.
Ces petits thèmes que j'avais là dans un coin de ma tête et qui tournaient vaguement sur mon piano, que je faisais, que je refaisais, que je refaisais, que je refaisais, jusqu'à ce qu'il y ait une erreur et qu'il fasse que l'erreur avec le doigt à côté fasse apparaître autre chose. Et ces petits thèmes que je faisais ont rencontré l'écriture, et après voilà, les choses se sont rencontrer. Je voulais pas que ça soit de l'accompagnement, je voulais que ça soit une expression parallèle, la musique et le discours.
Et vous vous êtes associé à Denis Chouillet,
voilà,
pour le
que j'avais rencontré lors de la deuxième version du journal intime de Luc Ferrari. Et là, j'ai flashé sur sa délicatesse de jeu, sa grande intelligence, sa sensibilité. Donc, je l'ai recontacté des années plus tard, en 94.
Vous auriez pu choisir Andy Emler, Denis Badeau, vous avez choisi Denis Chouillet.
Denis, il avait le même cursus que moi, la musique classique. Il est très très ouvert des oreilles, donc capable d'improviser un peu dans tous les styles. Mmh. Et puis, j'avais quand même une base plutôt répétitive, contemporaine, personnelle, qu'il a pris à bras le corps, à bras les mains plus exactement, à bras les doigts, et qu'il a fait sien, qu'il a orchestrée sur tout le piano, et des fois même pas du tout, des fois ça restait aussi nu que ce que j'avais écrit, des fois j'écrivais le thème et puis continuait le thème parce qu'on avait un esprit, on a un esprit, j'espère toujours, de complémentarité, de continuité, d'esprit commun.
C'est de la coécriture alors, Élise.
Voilà.
Avec Denis,
ouais. Ouais, coécriture.
Et même humour aussi. Vous partagez beaucoup cet humour-là.
Ah, on a des fous rires. Je crois que c'est des grands, grands fous rires, c'est avec Denis.
Toujours, je te le dis. Je te le dis toujours, mais t'écoutes jamais rien. Je te dis toujours la même chose, mais t'écoutes jamais. T'entends? T'entends ce que je te dis? Je te dis rien. Je te dis trop rien. Je te dis plus trop rien, hein, c'est ça? Tu veux que je te dise? On fait comme ça, tu veux? Tu veux que je te dise quelque chose? Rien. Tu veux vraiment que je te dise quelque chose? Rien. C'est toujours la même chose, qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, il y a toujours que moi qui m'écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est exactement comme si je te disais rien. Comme si je te disais jamais rien. Si je t'avais rien dit, je t'avais dit rien.
Élise Caron, vous aimez les collaborations au long cours, au long terme, il y a pas mal de compagnonnages. J'aimerais qu'on parle de votre compagnonnage avec Jacques Rebautier. Parce que... on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, et c'est ancien quand même. Hein.
Oui, 88.
88.
Dans la rue. Je l'ai rencontré dans la rue parce qu'il était ami avec la personne avec qui j'étais. Jacques, on ne s'est plus jamais quitté. Hein. Jacques,
je fais une petite incursion, poète.
Poète et compositeur. Et être.
Et performeur aussi. Puisque...
Oui, absolument. Et de ses propres textes. Alors, lui, c'est l'incarnation de la liberté dans toute sa démesure. C'est un chercheur effréné de l'esprit. Il note tout, je l'ai vu toujours noter dans des petits bouts de papier, des machins qui traînent partout. Et je ne sais pas comment le décrire, en fait. C'est l'esprit encore, c'est toujours cette histoire d'esprit. Malgré les personnalités radicalement différentes de ces compositeurs que j'ai rencontrés, l'esprit a toujours été celui qui chapeautait la rencontre. Mm. C'est au-delà d'un atome crochu, c'est une vague de... C'est la famille, en fait. C'est une espèce de famille de cœur et de pensée et d'esprit. Et il faut lire ce qu'il a fait. Hein. C'est un grand joueur.
Avec les mots,
les sons. Dans la vie aussi, c'est un grand joueur. Grande bienveillance. Et son écriture mérite qu'on soit exigeant. Et je pense notamment à des choses comme ça, très rapides, qu'on a enregistrées tous les deux, qu'on fait de temps en temps encore en concert-lecture. Et bon, c'est jouissif. Hein. C'est jouissif. Et il a écrit des choses qui étaient monstrueuses hein, aussi pour moi. Notamment, je préfère les fleurs, que je ne sais plus chanter maintenant, mais on ne sait jamais, peut-être... Je vais recouvrer une jeunesse. Mais c'est des choses complètement folles, très personnelles, très particulières, et d'une poésie d'une libre et drôle. Il faut écouter ça.
Je vous aime à tous mes vents, partout les temps. Je vous aime, je ne vous aime pas. Je vous aime un peu beaucoup si vous m'aimez profondément. À la folie si vous m'aimez vous-même un peu plus que moi, évidemment. Dans les champs, parfaitement déjà hier, je vous ai rencontré. Dans les champs, y a plus d'enfants, pas du tout. Dans la rue, vous vous ressembliez étrangement, terriblement, même à vous-même, pas du tout. On aurait dit tout votre portrait, tout à fait, trait pour trait, tout à fait mon portrait, pas tout. Moi, je vous aime déjà beaucoup, vous savez, énormément, pas du tout, passionnément, j'ai pas le temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime les gens, j'aime les enfants, pas tout, j'aime aussi les fleurs des champs, leurs corolles charmantes, leurs corolles folles qui se donnent à minuit dans de petits hôtels de la rue des fonds. Les fleurs, de tous les champs, leurs jolis pétales, leurs jolis petits pétales, leur cœur tendre et charmant comme des coquillages subtils, leurs gentilleuses étamines qu'on dirait des pistilles, et leurs petits ticotis, les dons mignons. Et vous, est-ce que vous m'aimez un peu? D'abord, je ne sais pas, je m'en fous, comment, vous ne m'aimez pas? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez moi? Mon visage, mes yeux, mon cou, mon pancréas, allons, même pas un peu, mon cerveau, eh bien moi non plus, je ne vous aime pas, jamais, je vous déteste, je vous hais, jamais, je vous exècre, jamais, je vous abomine indubitablement, jamais, je ne vous aimerai, jamais, jamais. jamais, 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 jamais.
De la poésie de Jacques Rebautier, Élise Caron nous disait à l'instant qu'elle était folle, libre, drôle, profonde. « Je préfère les fleurs » est un bel exemple de tout cela à la fois. C'était le 4e épisode des Grands Entretiens d'Élise Caron, réalisation Anne-Pascale Desvignes, avec Marie Le Peintre, Yves Lehorse, Marie-Christine Ferdinand et Aude Vassan. Suite et fin de ce portrait demain.
À réécouter sur francemusique.fr.